Avant qu'on continue la lecture dans Marc 11, j'aimerais faire juste un cours de rattrapage en arboriculture. Attention, je distribue les feuilles, je les ramasse, interrogation écrite. En général, quand on plante un arbre fruitier, quel est le but? D'avoir des fruits, si possible de l'arbre qu'on a planté, en général, hein. Si on plante un arbre, si... D'ailleurs, je crois que les cerises commencent à arriver, on regardait ça tout à l'heure. Si on plante un cerisier, c'est pour avoir des cerises. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà planté un figuier? Ah, ça me plaît. Quelle est la particularité du figuier? Très bien. Mais est-ce que vous avez pu constater que les fruits sont avant les feuilles? C'est étonnant, hein? Alors j'ai travaillé 4 ans devant un figuier, je m'en étais pas rendu compte. Je pense que je suis pas botaniste. Oui, la particularité du figuier, c'est que les fruits viennent avant les feuilles. Alors, donc, quand on connaît un petit peu et qu'on n'est pas un urbain comme moi qui n'a rien remarqué, les personnes, imaginez-vous, les personnes à l'époque de Jésus, quand ils voyaient un figuier où il y avait des feuilles, ils se disaient, dessous, ça va être le festin, on va pouvoir manger des figues à l'ombre. Et je pense que le figuier était un arbre très, très apprécié. Et ça rejoint un petit peu le texte qu'on lit ce matin en Marc 11. On va reprendre la lecture à partir du verset 12. Alors en fait, pour resituer, Jésus est monté à Jérusalem, mais on a vu qu'il est revenu à Béthanie. Et pendant la semaine, il fait souvent les allers-retours, certainement d'ailleurs qu'il ne reste pas dans Jérusalem. Parce que les responsables religieux de l'époque voulaient déjà le faire mourir. Et Jésus gère aussi ce moment-là. Et il revient à Béthanie, c'est à, grosso modo à 3 km de distance. Donc verset 12, Marc 11. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Peut-être avait-il déjà eu beaucoup d'entretiens, eu beaucoup de monde qui était venu et qu'il n'avait pas eu le temps de déjeuner, ou avait-il préféré passer du temps avec le Père? Hein, on voit beaucoup dans les évangiles, Jésus se met à l'écart pour prier, pour être dans la communion avec le Père. Verset 13, il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles, donc festin, et alla voir si il s'y trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et dit, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Évidemment, Jésus n'a pas été pris au dépourvu. Hein? Il savait. Comme je disais, quand on voit de loin, ça renvoie à quelque chose. Quand on voit un figuier de loin, on peut se faire du bien. Dessous, en arrivant et en mangeant du fruit. Et là, Jésus arrive, il n'y a pas de fruit. Et il semble en plus que le figuier soit complètement déréglé et que c'est la manière dont il est en feuilles ne soit pas vraiment coordonnée. Et Jésus est en chemin vers Jérusalem. Et que voit-on quand on va vers Jérusalem au loin? À l'époque, on voyait au loin le temple. Et quand on voit le temple au loin, on se dit pas festin, hein, mais on se dit c'est le lieu où on vient prier l'Éternel. C'est le lieu où on vient l'adorer. C'est le lieu où on vient faire un break pour être dans la présence et dans les dispositions que Dieu attend. Et c'est pas un accident si à la fois cette anecdote avec le figuier nous est donnée au moment où Jésus monte à Jérusalem. Et on va lire la suite. D'ailleurs, ce n'est pas un accident, vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a veillé à la rédaction de ce texte. Dieu lui-même a veillé à la rédaction. Et ce qui se passe avec le figuier, ce qui se passe dans le temple, vous allez voir, il y a quelques similitudes. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant « N'est-il pas écrit « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient le moyen de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Toute la journée, Jésus arrête cette folie commerciale dans le temple. Au lieu que ce soit un lieu de prière, c'était devenu un centre commercial. Et les échoppes dans lesquelles ils s'étaient, où ils vendaient tout ce qu'ils avaient, soit à la fois pour les sacrifices, soit pour changer la monnaie pour ceux qui venaient de loin, ils avaient pris la place qui était réservée aux personnes qui étaient étrangères et qui venaient aussi de loin pour prier. Plus de place pour eux. C'est pour ça qu'il est question aussi des nations dans ce texte. Au loin, quand on voit le temple, c'est synonyme de la présence de Dieu. Quand Jésus arrive, qu'est-ce que l'on voit ? Commerce, trafic, complaisance du monde religieux. Pas le fruit prévu. Le temple est complètement déréglé. C'est devenu un lieu culturel, touristique, si on veut, superstitieux, commercial, au lieu que ce soit un lieu de ressourcement. Jésus prophétisera aussi contre le temple, et sa destruction totale arrivera en l'an 70. Jésus a donné une sanction au figuier, et peut-être que le figuier va sécher, va plus donner de fruits. Et de même, ici, le temple qui est aussi déréglé, Jésus donnera un jugement contre le temple, et quelques temps après, en l'an 70, il sera complètement détruit. Lisons la suite, Marc 11, verset 20. Donc ils sont revenus, parce que visiblement ils repassent devant le figuier, verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Donc là, il n'est pas reparti des racines. Hein. Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors c'est un peu ironique, parce que les disciples, ils sont quand même habitués à voir Jésus faire, quand il dit quelque chose, les choses se déroulent comme il a dit. Et donc, il n'aurait pas dû être vraiment étonné de voir que si Jésus a maudit le figuier, que le figuier soit réellement desséché. Mais c'est bien parce que c'est une attestation qui nous rappelle ce que Jésus a dit. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe. Alors, par rapport à cet événement, Jésus dit au verset 22, Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ce texte est important dans le sens qui nous éclaire sur la manière dont on prie. Alors, l'accent est mis sur la manière dont nous allons prier. Ce n'est pas un texte qui nous dit que Jésus fera exaucera tous les caprices que l'on pourra lui demander dans la prière. D'ailleurs, vous avez noté que ce texte commence au verset 23, « Je vous le dis en vérité. Hein? » Et l'exaucement de Dieu de toute prière est dans le cadre, comme on l'a chanté, de sa justice, de sa vérité, de sa personne. Hein? Jésus ne va pas exaucer des prières qui sont en dehors de sa volonté clairement définie dans la parole de Dieu ou qu'il nous montre en cheminant avec lui. Mais l'accent qui est mis dans ce texte au niveau de la prière, c'est sur la foi avec laquelle on exerce nos demandes au travers de la prière. C'est pas prier avec peut-être, ben on verra bien, hein, ou sur un malentendu, on ne sait jamais, hein, à défaut, je fais que, mais de réellement prier en croyant que la chose nous est déjà accordée. Si je téléphone, par exemple, je sais qu'à l'autre bout, ça va fonctionner, quelqu'un va décrocher s'il est là. Hein. Mais le système de transmission, on ne se pose jamais la question, est-ce que vraiment ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, etc. Et c'est ce qu'est un petit peu en train de dire ici Jésus, priez avec la même confiance. Si vous priez, faites-le comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous demandez. Et évidemment, un des aspects de l'Esprit de Dieu, c'est de nous guider justement dans nos prières. Et évidemment, si l'Esprit nous inspire la manière de prier, l'Esprit n'est pas en désaccord avec le Père. Donc forcément, nos demandes sont dans le cadre de Dieu. Mais prions avec cette confiance. Dieu nous entend. Le ciel n'est pas vide. La connexion n'est pas coupée. Dieu entend réellement. Et prions avec foi. Alors, est-ce que l'histoire de la montagne est imagée, pas imagée ? D'un point de vue littéral, ça fonctionne bien. D'un point de vue imagé, ça fonctionne bien aussi. Dieu est capable de tout. Cependant, dans la prière, il semble qu'il puisse y avoir de la friture sur la ligne, un obstacle, le pardon. Et ce texte nous invite à avoir une transparence. Si on a une transparence avec Dieu dans la prière, qu'on ait exactement aussi la même transparence avec les frères et sœurs. Et qu'on puisse l'exprimer et se demander pardon les uns les autres avec la même simplicité. Hein? Si on a un relationnel entre nous sans ombre, c'est une belle image du relationnel que l'on peut aussi avoir avec Dieu dans nos demandes. Et je crois que dans ce texte, on pourrait se demander, finalement, au début du culte, on a lu le texte avec les disciples qui vont chercher l'anon. C'est comme si je disais, allez dans trois rues là-bas, allez prendre la voiture, et si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz, le maître en a besoin. Il faut avoir une certaine confiance. Hein? Mais voyez, les disciples, bon, ils ont posé les questions avec, mais ils y sont allés avec la même foi que Dieu nous demande d'avoir dans la prière. Et ce texte n'est pas, le texte qui était avant, n'est pas un accident avec le texte qu'on vient de lire maintenant. Hein? C'est une démonstration, ben, faites confiance, quand on fait confiance à Dieu, agissez de la même manière dans la prière, quand vous priez, ben, qu'il en soit pareil. Voilà pour ce texte. Alors, que ça nous pousse à être à la fois, nous, authentiques. Si on voit un figuier, l'objectif, c'est de voir des figues. Si on voit le temple de Dieu, l'objectif, c'est de voir dans le temple de Dieu un moment en relation avec Dieu et pas un centre commercial. Quand on voit un racheté, quand on voit un chrétien, l'objectif, c'est quoi qu'on voit de lui ? Est-ce que on pourrait dire quand on nous voit, on s'attend à voir quelqu'un qui est attaché à Christ. Quelqu'un qui a peut-être foi en Dieu quand il prie. Une vraie foi. Hein? Et je pense que l'exemple du figuier est en relation avec le temple, mais ça nous renvoie aussi à nous. Est-ce que quand on nous voit, on voit au travers de nous quelqu'un qui est racheté? Est-ce que quand on est en relation avec nous, on s'attend à voir des personnes qui sont réellement inspirées par l'Esprit de Dieu? Est-ce que quand on vient vers nous, on s'attend à voir des personnes qui prient avec foi et qui s'attendent aux réponses de Dieu? Le problème n'est plus le figuier, il est déjà mort, et à mon avis, il a déjà fait du compost depuis bien des années. Le problème n'est plus le temple, il est détruit, et ça s'est déjà fait au niveau de la construction. Ça renvoie à nous. Est-ce que nous, temple de Dieu, hein, est-ce qu'on peut être des personnes chez qui on voit réellement l'œuvre de Dieu s'accomplir? Mais que ça puisse nous faire réfléchir. Je ne sais pas dans quel domaine, moi ou nous tous, nous avons à progresser. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'il y a toujours plus de place pour que l'Esprit de Dieu agisse en nous. Et demain, on a la chance d'avoir cette journée off, on pourrait dire, et bien qu'on puisse se rappeler justement de cet aspect, que l'Esprit aimerait agir dans nos vies pour qu'on puisse grandir aussi en lui, et qu'on puisse voir dans les rachetés des personnes qui sont vraiment rachetées et pas des personnes qui ont un double jeu. Je vais prier. Seigneur, merci pour la clarté et la simplicité de ta parole. Seigneur, on a compris facilement. Et Seigneur, on t'en remercie. Seigneur, ce qu'on te demande, ce que je te demande pour ma vie, Seigneur, c'est que ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, ce que nous avons pu partager ensemble, eh bien Seigneur, que ça puisse être vivant dans nos vies. Seigneur, combien de fois je ressemble à ce figuier? Seigneur, tu t'attendrais à voir en moi quelque chose qui rayonne, et finalement il n'y a que des choses futiles et inutiles, stériles dans ma vie. Eh bien Seigneur, que tu agisses en moi, Seigneur, que ton esprit puisse agir pour que je puisse te ressembler davantage. Seigneur, que ça puisse être le cas aussi pour nous tous. Seigneur, que tu puisses grandir. Seigneur, qu'on puisse avoir une plus belle compréhension de ce que tu veux faire simplement, pratiquement au quotidien, dans nos vies. Et Seigneur, que en nous voyant, on puisse te voir, tout simplement. Amen. Être à l'image de Dieu, ce pourquoi on a été créé, c'est être les représentants de Dieu sur terre. C'est-à-dire que quand on voyait Adam, on devait voir Dieu sur terre. Et racheté par Christ, il est dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. C'est exactement la même démarche. Qu'en nous voyant, eh bien, on puisse savoir quel pays on représente. Celui qui est éternel.